Bonjour, c'est Louis d'Énergie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Briller en Société, le podcast énergie qui vous dit tout sur absolument tout. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands mystères de l'histoire de l'art, j'ai nommé l'oreille de Monsieur Vincent Van Gogh. On sait qu'il était un immense artiste, évidemment, hein. On sait aussi qu'il souffrait de troubles psychiques, mais ce qu'on n'a vraiment jamais trop compris, c'est pourquoi et surtout comment ce geste de folie s'est produit. Alors on va commencer par le commencement. Avant toute chose, je vais vous raconter un petit peu l'histoire et l'enfance de ce grand monsieur Van Gogh. Il est né en 1853, on est dans un petit village des Pays-Bas, et dès le début, le petit rouquin, bon, il s'intéresse plus aux couleurs de ses crayons qu'aux calculs mathématiques à l'école, hein. Ce qui ne réjouit pas vraiment son pasteur de père, vous l'imaginez bien. Et en même temps, je dis ça, mais la famille Van Gogh, clairement issue de l'ancienne bourgeoisie, a quand même un pied dans l'art, puisque trois de ses oncles, hein, du futur peintre, sont des marchands de tableaux. Bref, en tout cas, pour Vincent, ça commence pas si bien, parce qu'en fait, on lui donne à la naissance le prénom d'un grand frère mort. Ensuite, son enfance, elle est plutôt sans saveur. Chez les Van Gogh, on a une vie simple, hein, sans fioriture. C'est une ambiance, un petit peu terne et simpliste qui marque le garçon, parce qu'il était déjà à l'époque silencieux et pensif, donc ça va pas trop arranger les choses. À l'école, ça donne pas grand-chose, alors dès 16 ans, il décide de devenir apprenti chez son oncle, dans une boîte qui vend des dessins et des reproductions. Pour l'entreprise, il s'installe ensuite à Londres, et là, il tombe amoureux d'une belle jeune fille, mais elle le rejette sans scrupule. Coup dur, il s'isole du coup de plus en plus, je vous l'ai dit, il était déjà un petit peu silencieux à l'époque. Le jeune homme a ensuite une phase carrément mystique, mais il échoue au concours pour devenir pasteur. Du coup, il opte pour l'option prédicateur laïque, et il obtient une mission auprès des mineurs de Belgique. C'est une période de sa vie qui va énormément le marquer et on retrouvera d'ailleurs les visages de ces hommes abîmés par le travail de la mine des années plus tard dans ses œuvres, dans ses tableaux. Finalement, il prend la décision de se consacrer exclusivement à la peinture avec le soutien de son frère, Théo, qui décide de lui verser une rente en fait, puis même de lui acheter des tableaux au fur et à mesure. Après plusieurs années de formation aux Pays-Bas, ou en Belgique aussi, il y est passé, et autant de déboires amoureux et de disputes avec son père qui manque même de l'interner à un moment, Vincent retrouve son frère à Paris, en France, en 1886. Il découvre l'impressionnisme et il trouve ça vraiment dingue, il rencontre même Toulouse-Lautrec qui devient un ami. C'est dingue de dire ça, mais quand on parle de ces personnages, c'est fou, encore Georges Seurat et Camille Pissarro, bref, du beau monde quoi, il était avec le gratin. Mais surtout, et vous vous en doutez, c'est là que ça va compter pour la suite de l'histoire. C'est là, à ce moment-là, en fait, qu'il fait la connaissance de Paul Gauguin. En parallèle, il fait la bringue, hein. Il boit beaucoup d'absinthe, ça arrange pas trop sa santé mentale qui était déjà fragile, je vous l'ai dit, sur le plan psychique, c'était un peu compliqué. Mais il apprend beaucoup, il se laisse inspirer, il s'essaye à plein de styles picturaux. Puis il décide qu'il est temps d'aller découvrir les fameux paysages du Sud dont on lui a dit tellement de bien quand il était à Paris. Donc 2 ans après son arrivée dans la capitale, il va chercher la lumière dorée du Sud et il va à Arles. C'est là qu'il s'installe dans la célèbre Maison Jaune, qu'on connaît tous, hein, grâce à son magnifique tableau « La chambre à coucher ». Paradoxalement, quand il s'installe dans le sud, la région n'est pas ensoleillée et très chaude, puisque elle est sous la neige. C'est un petit peu bizarre, mais le soleil, vous vous en doutez bien, ne tarde pas à refaire son apparition, c'est toujours comme ça dans le sud. Et du coup, il s'émerveille littéralement des paysages magnifiques qu'il découvre. Il se balade à pied un peu partout, il peint des scènes de moissons, des portraits de paysans. C'est là qu'il accouche de certaines de ses œuvres les plus célèbres, hein, d'ailleurs, comme par exemple La Nuit étoilée, ou encore celle qu'on connaît, Les Tournesols. Son style s'affirme de plus en plus avec ses couleurs pleines de peps et ses coups de pinceau audacieux. Et du coup, c'est le sud qui l'inspire. Donc là, il est dans un bon mood, Van Gogh. Il est hyper enthousiaste. Il raconte régulièrement son quotidien à son frère Théo. Du coup, via des lettres, ils sont restés assez proches. Il correspond aussi avec quelques copains peintres, dont Gauguin d'ailleurs. Et petit à petit, il arrive à le persuader de le rejoindre. Son rêve, en fait, c'est de fonder une communauté d'artistes dans sa jolie maison jaune du sud de la France. À force de persuasion, Paul Gauguin arrive à peine quelques mois plus tard, ils travaillent ensemble du coup, ils échangent beaucoup, mais ils s'entendent pas finalement très très bien. Gauguin c'est plutôt un bon vivant, un mec qui aime profiter de la vie, et il se retrouve à cohabiter avec un colloque bizarre qu'il persécute et le traite même de serpent, enfin l'ambiance est un peu bizarre. C'est une atmosphère un peu tendue qui plaît pas non plus d'ailleurs au sensible Van Gogh, puisque plus les années passent, plus il devient aussi vachement sensible, et la santé mentale du coup, ça range pas des masses au fur et à mesure des années, il souffre même de crises psychotiques. Et là, du coup, c'est là qu'on arrive au soir du drame. On est le 23 décembre 1888. Il a plu toute la journée à Arles. Hein, ça vous dresse un peu le décor. Et Vincent, le jour même, a reçu une lettre de son frère Théo qui lui annonce qu'il va bientôt se fiancer. Et en fait, cette nouvelle, elle est catastrophique pour lui. Parce que son frère, c'est son seul soutien moral et financier. Hein, on en parlait depuis la rente qu'il lui a accordée. Gauguin, lui, je vous l'ai dit, il en peut plus trop des humeurs de son copain. Donc en fait, il découche et il décide de rentrer à Paris le lendemain. Pour Van Gogh, en fait, c'est simple, hein, c'est comme s'il perdait les deux personnes les plus importantes de sa vie en une seule journée, en quelques heures, donc admettez que ça fait un peu beaucoup. Seul, Désespéré, il finit par se trancher un morceau d'oreille devant le miroir avec un rasoir. Forcément, le sang se met à couler, hein. En guise d'éponge, il utilise un drap, il sort même de chez lui pour se rendre dans un bordel. Il demande à une prénommée Rachel, la femme de ménage de la maison close, de l'aider. Et donc là, encore plus fou, il lui donne son lobe d'oreille enveloppé dans un papier journal. Et la petite jeune fille, évidemment, bah, elle sait pas comment réagir, elle tombe dans les pommes, vous vous en doutez bien. Et c'est de ça, du coup, que proviennent toutes les théories qu'on a entendues sur le drame. Pour certains historiens, par exemple, il y a un truc christique dans le geste, parce que bah, lui rêvait de devenir pasteur, qu'il a donné un morceau de son corps à une jeune femme. Pour d'autres, Van Gogh aurait été poussé par sa dispute avec Gauguin, ça l'aurait rendu frustré, en colère, et comme il était déjà fragile psychologiquement, bah, ça aurait provoqué cette explosion de violence qu'il aurait pas trop pu contrôler. L'historienne Bernadette Murphy s'est penchée un peu en détail sur l'événement et elle est tombée sur un dessin de l'oreille blessée par le docteur Ray. Il a soigné Vincent et il a peint le portrait. Et le médecin aurait visiblement dit au peintre que le coupe-chou a dû glisser comme dans du beurre. Pour la chercheuse, en tout cas, c'est une scène d'automutilation absolument unique. Vincent lui-même, il en a parlé un petit peu plus tard à son frère, hein, dans une lettre. Il a dit, je cite, « Je t'assure que quelques jours à l'hôpital étaient très intéressants et on apprend peut-être à vivre avec des malades. J'espère que je n'ai eu qu'une simple toquade d'artiste et puis beaucoup de fièvre à la suite d'une perte de sang très considérable. Une artère ayant été coupée, mais l'appétit m'est revenu immédiatement. La digestion va bien et le sang se refait de jour en jour. Et ainsi, de jour en jour, la sérénité me revient pour la tête. » Malheureusement, la suite n'a pas vraiment été dans son sens. Son frère Théo lui rend visite avec Gauguin lorsqu'il sort de l'hôpital. Mais une pétition signée par 30 personnes exige l'internement ou l'expulsion de Van Gogh d'Arles pour éviter le trouble à l'ordre public, parce qu'il faisait parler de lui. Un autre docteur évoque des hallucinations auditives et visuelles et un commissaire de police est persuadé qu'il pourrait devenir dangereux pour la sécurité publique. Bref, il est persona non grata. L'artiste finit par se refaire interner à Saint-Rémy-de-Provence et malgré tout, il continue à être prolifique parce que bah, c'est là qu'il a créé certaines de ses œuvres les plus puissantes qu'on connaît encore aujourd'hui. Finalement, en 1890, 2 ans après son installation dans le sud, il retourne en région parisienne. Il va retourner du côté de Paris pour se rapprocher de son frère. Il y peint du coup ses derniers chefs-d'œuvre, mais dans sa tête, ça va toujours pas mieux, même ça va de pire en pire. Quelques mois plus tard, il se tire une balle dans la poitrine au milieu d'un champ avant de rejoindre son auberge et d'y mourir 2 jours plus tard aux côtés de son bien-aimé et frère Théo. Il a que 37 ans, alors vous vous en doutez, des tonnes de psychiatres se sont penchés sur le cas Vincent Van Gogh et depuis, ils ont évoqué de la schizophrénie, le trouble bipolaire, la syphilis ou encore le saturnisme. Des maladies qui auraient été aggravées en fait par sa malnutrition, son surmenage et par son goût bien prononcé pour la bouteille. Parce que on n'a pas trop parlé depuis le début, mais il buvait pas mal Van Gogh. Une autre théorie suggère qu'un médecin lui aurait prescrit de la digitaline. C'est un médicament pour soigner l'épilepsie et qui au fait pourrait provoquer des changements dans la perception des couleurs. Et du coup augmenter la nervosité. Bref, Vincent Van Gogh a une vie marquée hein, par des hauts et des bas, à base de pinceaux volants à travers des toiles, de passions, de disputes. Mais il a créé quand même, ça reste un artiste avec un grand A, plus de 2000 œuvres d'art en une décennie. Et ça, bah, c'est un vrai exploit. Et d'ailleurs, de son vivant, il faut quand même savoir que bah, il n'a pas vendu une seule toile, à part à son frère, il en avait acheté une. Et pourtant, son œuvre clairement incomprise lorsqu'il était en vie bah, prendra une renommée mondiale après sa mort. Aujourd'hui, les toiles de Van Gogh sont des trésors inestimables et ses contributions à l'art moderne sont reconnues partout dans le monde. On dit même parfois que c'est le plus grand peintre de l'histoire. Mais quant à comprendre ce qui s'est exactement joué dans sa tête ce fameux soir dans le sud de la France à Arles, ça, il faut bien l'admettre, on n'arrivera jamais vraiment à le savoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brillant en Société. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. On lit à chaque fois ce que vous nous mettez sur les applications. Si vous êtes sur une application de podcast, si vous êtes sur l'appli Énergie, si vous êtes sur énergie.fr, notez ce podcast. N'hésitez pas à nous laisser même un petit commentaire. On les lit avec Daphné Breitenbach qui écrit ce podcast. Je suis Louis, animateur sur Énergie. Et c'est un podcast Énergie qui est dispo sur toutes les applications gratuitement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.